Vous aurez pris un avion comme d'habitude, et puis vous aurez découvert une petite capitale d'un petit pays d'Amérique centrale. Et puis, je ne sais pas, il y a des fois, on a envie d'aller voir le soleil levant, comme ça, on se laisse glisser le long du Rio Motagua, et puis vous descendez petit à petit, le climat va changer, vous étiez à 2000 mètres d'altitude, commence à faire un peu plus chaud, et vous découvrez, je vais dire les premiers bananiers, juste au premier bananier, vous tournez à droite. Vous descendez du côté de Zacapa, et puis là, vous cherchez un peu, et vous trouvez une piste. Une piste qui paraît courte au départ, qui deviendra de plus en plus longue parce que, ah ben tiens, il y a un gué, ah tiens, il n'y a pas de pont. Et puis, juste à la fin de ce premier parcours, vous verrez une toute petite barrière, un chien, quelques cases, un peu de bleu. La couleur a changé, c'est vrai. Tout à coup, vous vous dites, je vais peut-être changer de pays, c'est une frontière. Alors vous avez celui d'à côté avec, comment est-ce qu'on appelle ceci? Dites-moi tout, Geneviève Lefort, ces choses pour...
La machette.
Mais non, il n'y a pas seulement le machette, c'est aussi, ils aiment bien nous mettre des trucs sur les roues pour être sûr qu'on soit bien désinfecté avant de passer la frontière. Ça vous est arrivé?
Non, ça ne m'est pas du tout arrivé, mais par contre, je me souviens que sur la frontière, il y avait tout d'un coup, vous savez, la colline qui est là à droite, il y a tout un espace où les arbres ont été rasés. Alors je me suis demandé, c'est quoi, c'est un coupe-feu, ou bien je ne sais pas ce que c'est, mais je me suis dit, c'est leur manière de marquer la frontière, apparemment, on change de pays.
Ben oui, il y avait un côté où vous avez coupé les arbres et l'autre pas.
Voilà.
Et on était en Honduras. Il nous reste une douzaine de kilomètres, et puis là, alors, c'est vrai que c'est une vallée somptueuse. Tout à coup, elle s'ouvre, elle a quelque chose de particulier, il y a de l'eau, il y a cette végétation dont je parlais tout à l'heure. Vous vous dites qu'il y a une certaine richesse. Et je viens d'apprendre, parce que quand on visite Copan, nous y sommes, on est chez les Mayas, on vient de partir de Guatemala City, je n'avais même pas cité les pays au départ, et on passe dans ce petit Honduras, effectivement, on voit de toutes les couleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Copan est encore intègre, intégrale, toujours entière, c'est un site merveilleux, c'est peut-être un peu le Machu Picchu à plat. On peut dire ça?
Oui, peut-être.
Enfin, c'est quelque chose qui, quand on l'a visité une fois, reste un des sites les plus marquants de toute l'Amérique.
Certainement, mais en tout cas, c'est pas un de ces sites dans la jungle. En tout cas, c'est un site très ouvert, c'est vrai. Enfin, d'abord, quand on arrive de la frontière, là, on arrive d'abord dans ce petit village de Copan. Donc, quand on arrive dans la région, on arrive vraiment dans un village avec sa place de marché. Enfin, les gens, on voit les gens vivre, les Indiens encore d'aujourd'hui. Et puis, le site lui-même est vraiment tout à côté du village. Donc, il y a aussi une interaction qui est très forte entre les villageois et le site.
Oui, c'est vrai, les pavés, les petites maisons avec des toits à la romaine, un petit musée d'Orient, un nouveau musée moderne.
Un grand musée maintenant, super.
Qui est extraordinaire,
oui,
qui est un des plus beaux.
Oui.
En l'occurrence, Copan, quand on y arrive pour la première fois, est-ce qu'on arrive à retrouver l'ambiance qu'on avait au 19e siècle lorsque tout à coup on avait envie de dessiner pour la première fois ces ruines mayas, ces stèles?
Mais je dirais que Copan, c'est vrai, est très impressionnant, mais d'un autre côté, comme ce n'est pas un de ces sites qui est encore entouré de jungle, on n'a peut-être pas, en allant à Copan, la même impression que quand on va dans d'autres sites comme Palenque, par exemple, ou Tikal, parce que comme Copan est si près du village et qu'il est entre le village et la rivière, il est vraiment tout à fait dégagé.
Vous voulez dire par là que ça ressemble plutôt à un jardin anglais qu'à à cette formule jungle à la machette qu'on a envie et qu'on a l'habitude de voir?
Oui, peut-être, mais ça n'en reste pas moins un site évidemment qui est superbe parce que la sculpture de Copan, par exemple, est extrêmement préservée. Donc quand on arrive dans le site même, une fois qu'on arrive sur... En général, quand on arrive, la première chose qu'on
Là, vous
voit...
ouvrez vos mains comme si tout à coup on
arrive.
Oui, parce
qu'alors on arrive, voilà, j'ouvre ma main parce qu'on arrive. On passe la porte, donc enfin, disons, on passe le petit garde.
Tiens, là, vous avez vu, il y a des perroquets.
En effet, je m'en souviens. Oui, c'est vrai. Ils sont bien là. Alors, on paye, on rentre, et puis on suit un chemin qui va nous mener vers une toute grande place avec, oui, c'est vrai que le gazon...
Ah, vous l'avez vu.
Oui, 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 le gazon, ça fait presque gazon anglais. C'est tout plein, et puis il y a comme ça, un petit peu partout, des grandes stèles, donc ces grandes blocs
qu'est-ce qu'une
de pierre.
Stèle? Si on les traduit en maya, ce sont des arbres de pierre.
Oui, c'est ça. Et c'est en effet, une stèle est une toute grande pierre. Celles de Copan font quoi? 2 mètres
2 mètres 50
de
oui.
haut. C'est des gros monolithes perpendiculaires, comme ça, parallélépipèdes.
De diorite verte, comme ça, une très belle couleur de pierre.
Oui, et chacune de ces stèles représente un roi. Et la sculpture de Copan est très très particulière parce qu'elle est très organique, comme ça.
Est-ce qu'on peut dire baroque?
Oui, tout à fait. Tout le bloc de pierre est sculpté dans tous les sens.
Vous faites encore des gestes avec les mains,
oui,
on a l'impression
que
ça gratouille de partout.
Oui, en effet, il y a des éléments comme ça qui sortent d'absolument partout, ça fuse dans tous les sens.
Il y a un visage.
Oui, alors il y a un portrait, enfin bon, on ne peut pas dire vraiment un portrait, mais une représentation d'un roi, donc il y aura un roi debout. Mais il est tellement enfoui dans une série d'éléments de costume et de coiffe et de sceptre qui tient là, plus tous les autres petits éléments qui vont être rajoutés sur l'image, des petits dieux par-ci, des petits ancêtres qui volent par-là. Enfin, il est
ça entouré, grouille. Quoi.
Voilà, il est entouré de plein de choses. Donc c'est vrai que finalement on voit son visage là enfoui au milieu de tout et on voit ce roi qui est bien droit et puis qui regarde...
Vous avez pris une position très hiératique comme ça. Vous avez carrément pris la forme de la stèle qui est quand même très verticale. C'est quelque chose de planté en terre.
Mm-hmm.
Ça a une forme très régulière. C'est comme à Copan, ce sont de véritables cubes travaillés à l'intérieur en trois dimensions.
Oui, oui, oui.
Ce qui est assez rare. La stèle, d'habitude, c'est plutôt une sorte de tranche de pierre.
En effet, en général, le relief sera plutôt bas, tandis que là, vraiment, c'est ce qui caractérise Copan et qui fait que l'art de ce site est absolument superbe, c'est que c'est tout à fait organique.
C'est du haut relief,
oui,
justement.
C'est du haut relief.
Quand on voit un personnage comme ceci, vous avez parlé d'habillement, on voit des bracelets de jadéite, des pectoraux incroyables. Ce qui est très touchant aussi, ce sont les incroyables coiffes de plumes de Quetzal, cet oiseau un peu tropical avec des plumes de 60 cm. D'abord, ce qui nous trouble, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais en plein été, Copan, je me rappelle, être monté tout près des 50 degrés. Enfin, il ne fait pas toujours froid dans le coin, hein, avec les bananiers que j'évoquais. C'est quand même un climat très tropical.
Oui, en effet.
L'habillement vous paraît judicieux ou c'est seulement pour sortir à ce
moment-là ?
Non,
c'est de toute façon, on espère quand même qu'ils n'étaient pas habillés comme ça tout le temps, parce qu'en plus, ça ne doit pas être très confortable. Mais non, ce sont des habits de cérémonie. Donc, quand le roi, à diverses occasions, sortait et qu'il allait faire une cérémonie ou que ce soit sur la grande place ou bien devant un temple ou quoi, il portait un costume caractéristique. Alors, il y en avait plusieurs, bien entendu. Souvent, il portait un costume qui était en fait un costume qui rappelait un dieu.
C'est-à-dire qu'un peu comme si on prenait notre façon de voir les choses, le pape sort à midi, un cardinal le suit, et chacun aurait un costume de couleurs différentes et des formules différentes par rapport à une symbolique. C'est ça que vous voulez
dire ?
Oui,
c'est ça. Et par exemple, le roi, bon ça on ne connaît pas encore très bien ce qui se passe, mais le roi pour une cérémonie X ou Y, par exemple une cérémonie liée à la fertilité ou bien à la récolte du maïs ou je ne sais quoi, va porter un costume qui va par exemple évoquer le dieu du maïs ou bien le dieu de la pluie ou ce genre de choses. Et quand le roi porte ce costume, il se fait en fait l'enveloppe du dieu. Il se fait le représentant du dieu sur terre. Et pendant ce moment-là, il partage même, sans doute ou peut-être, avec le dieu une certaine naissance divine ou un petit quelque chose qui fait qu'il est vraiment particulier.
Il devient.
Oui, on peut dire qu'il est vraiment le représentant, mais il y a sans doute, au moment où il porte ce costume et au moment où il est là devant tout le monde à dire « je suis là devant vous pour le moment à incarner le dieu X ou Y », ils doivent sans doute à ce moment-là partager un petit quelque chose quand même. Donc il a un petit côté divin.
Ça, je m'imagine très bien en dieu de la pluie ou en Zeus ou en Jupiter. C'est vrai que ça doit être impressionnant. Geneviève Lefort, vous êtes mayaïste, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire vous vous occupez particulièrement de glyphes. Enfin, c'est ce qui vous touche le plus, en tout cas cette nouvelle forme de lecture qu'on a d'ailleurs sur les stèles de Copan comme dans certains monuments. Et puis en fait, vous avez eu une formation. Vous avez un léger accent. Dites-moi tout. Comment est-ce qu'on devient mayaïste à votre âge et à votre génération ?
Oh, bah c'est vraiment un concours de circonstances. Je suis allée une fois au Mexique en vacances et puis ça m'a beaucoup plu. Puis j'aime beaucoup l'espagnol et je me disais pourquoi pas si un jour...
Seguimos en espagnol.
Si un jour mon métier me conduit dans ces contrées-ci, bah ça me ferait bien plaisir. J'ai toujours été plutôt intéressée par l'histoire de l'art. Je me suis souvenue après que quand j'étais gosse, j'adorais les histoires de préhistoire, etc. Donc quand j'ai commencé des études d'histoire de l'art, très naturellement, je me suis dirigée plutôt vers les anciennes civilisations. Et puis, bah alors le fait d'être intéressée par le précolombien, c'est un peu des rencontres que j'ai faites avec des gens qui m'ont donné envie, et puis les voyages. Et puis...
Où est-ce que ça s'est passé par rapport à l'accent ?
Ça s'est passé à Bruxelles.
On vous a croisé parfois au musée d'art et d'histoire ou éventuellement au musée RAT, puisque l'exposition a fait tellement de boom par rapport à cet art précolombien. J'aimerais tout à l'heure que vous nous fassiez pénétrer dans les profondeurs. Il y a des monuments, il y a une acropole extraordinaire à Copane, mm-hmm. et c'est devenu un peu le site boom, enfin le site qui nous apprend tellement, tellement de choses ouais. nouvelles. Geneviève Lefort, vous êtes maintenant mayaïste, vous avez une formation, vous vous retrouvez à Copane. Là, on vient d'entendre des tambours mayas, des sons un tout petit peu précolombiens. Le choc, comme on devait l'avoir au 19e siècle, là, c'est le côté romantique, c'est votre première approche. Est-ce qu'on a envie vraiment de savoir lire? Est-ce qu'on a envie tout à coup de pénétrer à l'intérieur de cette connaissance, justement?
Oui, mais bien sûr. En fait, ce qui est justement fascinant pour le moment avec les Mayas, c'est que depuis peu, on peut lire leur écriture. Donc, on peut maintenant lire les textes mayas. Donc, on commence à apprendre ce que les Mayas eux-mêmes essayaient de transmettre. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Puis, il faut évidemment utiliser, quand on étudie les Mayas, il faut utiliser aussi cette connaissance.
À Copane, qu'est-ce qui vous a bousculé, qu'est-ce qui vous a touché?
Eh bien, j'ai eu une expérience il y a peu qui était absolument unique et j'ai eu une grande chance de la vivre. C'est que, vous savez, dans les pyramides qui sont un petit peu partout dispersées dans le site de Copane.
On a l'impression qu'elles sont même en amalgame, comme ça. Ouais, on a l'impression ouais. de grands gâteaux faits de pyramides et d'ensembles de temples.
Tout à fait. Et en fait, évidemment, un site commence petit et puis devient grand. Donc, on reconstruit toujours par-dessus les édifices précédents.
Ça, c'est une manie maya.
Oui, mais c'est aussi une manie mésoaméricaine, en tout cas, puisqu'il y a la même chose chez les Aztèques. Mais... Donc, on va peut-être dire que c'est une manie précolombienne, je
tout
ne sais
fait.
Pas.
Tout à fait. Vous voulez dire par là qu'on construit une pyramide sur une autre pyramide voilà. en protégeant bien l'ancienne.
Oui, on la mm-hmm. protège bien. Et alors, c'est exact. C'est évidemment fantastique pour les archéologues, parce que quand ils arrivent à ouvrir, ils trouvent un bâtiment en dessous, mais qui est superbement préservé. Donc c'est très bien.
Comme si j'étais un ver qui rentrait dans un oignon et qui voyait tout à coup toutes les couches de l'oignon.
Voilà, exactement. Mm-hmm. Alors maintenant, on peut rentrer à l'intérieur de l'oignon.
Allons-y.
On y va. En fait, bon, les archéologues, depuis quelques années, ont creusé un incroyable de tunnels dans cette acropole, donc qui est comment est-ce qu'on décrit une acropole?
Ben, c'était le tas tout à l'heure, c'était voilà, vous aviez vos stèles qui étaient bien sur votre gazon bien plat, et puis là tout à coup quelque chose qui grimpe vers le ciel avec voilà. Un ensemble de monuments.
Alors ces pyramides sont maintenant vraiment trouées comme du gruyère, presque. Il est très difficile d'ailleurs de s'y retrouver, il faut vraiment presque...
Alors attendez, vous avez mis de l'oignon, il y a du gruyère.
Il faut vraiment, je crois, être presque l'archéologue du site pour, une fois qu'on rentre dans les tunnels qui vont pénétrer à l'intérieur sous ces édifices, s'y retrouver. Parce que bon, c'est vraiment un dédale, c'est un labyrinthe et il est difficile de savoir on est sous quelle pyramide ici ou là.
Donc en fait, on va découvrir les pyramides antérieures et on retrouve tous les décors et tout ce qui a fait le miracle de la conservation, c'est justement le fait qu'il y en ait une autre par-dessus, c'est
oui,
ça?
Oui, voilà. Mm-hmm. Et bon, évidemment, maintenant, on n'a pas pelé l'oignon, on rentre par le côté, par ces tunnels.
Un petit verre, quoi.
Voilà. Et puis... J'ai été un jour à Copane pour retrouver un ou deux des archéologues qui sont actifs sur le site pour le moment. Et justement, ils venaient de faire une grande découverte et ils m'ont emmené vers cette découverte sans rien me dire. Donc du coup, c'était vraiment tout à fait surprenant. J'étais en train de me promener dans ces tunnels, donc guidée par ces deux archéologues qui faisaient la visite guidée. Alors ici, il y a ceci, puis là, il y a ce superbe panneau et puis... Et puis, tout d'un coup, il y avait un petit trou. Bon, il faut savoir que c'est vraiment des petits tunnels. Et À un moment, il y avait un petit trou comme ça, et puis il m'a dit, un des archéologues m'a dit, tiens, mais mets-toi dans ce petit trou. J'avais juste la place de m'y mettre en étant accroupie. Et puis il y avait une ouverture comme ça devant le trou. Et il m'a dit, tiens, prends cette lampe torche, tu t'accroupis là, et puis tu passes la tête par ce trou, et puis dis-moi ce que tu vois. Alors je me suis accroupie, j'ai pris ma lampe, et j'ai presque plus rien dit, je vous dirai rien. Tiens, non, voilà.
Non. On était là en pleine surprise, elle nous casse voilà, tout.
Tout à fait. Faut faire durer le suspense.
Geneviève Lefort, qu'avez-vous vu par ce petit trou-là?
Alors, j'ai vu un banc en pierre qui était devant moi, mais qui devait être sans doute à 10 cm de mes yeux.
Quelle époque? Juste qu'on sache de quoi on parle. Là, je vous
taquine. Alors là, on parle vraiment de...
400?
Oui, quelque chose comme ça.
426?
Oui, plus précisément.
435?
Par exemple. Oui. Oui, donc c'est le 5e siècle. Il y avait un banc en pierre. En dessous de ce banc, il y avait plein de poteries polychromes décorées avec des décors absolument superbes. Et puis dessus le banc, c'est évidemment ça qui était le plus intéressant, il y avait un squelette qui était tout là, intact, couché. Il était disposé dans une petite chambre funéraire qui était un petit peu détruite. Il y avait un petit peu des blocs de pierre qui étaient tombés sur le squelette. Mais vraiment, le squelette avait été très peu dérangé. Il y a juste un peu ses pieds qui étaient un petit peu mal foutus.
La descente au tombeau, quoi, je veux dire.
Donc on voyait ce type, ce roi, enfin ce personnage qui était là couché avec sur sa poitrine, autour de son crâne, un nombre incroyable de bijoux en jade. Enfin quelque chose d'absolument superbe.
La jadéite qui a cette couleur verte extrêmement forte.
Et c'était un grand moment. Il y avait aussi cette substance rouge, là, le cinabre
rouge. Ouais. C'est quoi, du sulfate de mercure? Qu'est-ce que c'est?
Oh, alors, je ne pourrais pas vous dire.
C'est ce qu'ils mettent en général dans les grands enterrements précolombiens. Ouais. Alors, vous aviez votre torche. Il y a du rouge, il y a du vert, les céramiques en couleur.
Oui, et puis alors, j'ai regardé ça. Et puis, je suis restée là pendant un quart d'heure, comme idiote, à regarder tellement c'était beau. Et puis...
Alors, après le quart d'heure, on veut savoir qui c'est.
Alors, il s'agirait sans doute, vraisemblablement, du fondateur de la dynastie de Copan.
Il a un nom, déjà?
Il a un nom.
Ça veut dire qu'on l'a lu?
Ça veut dire qu'on l'a lu parce que les rois, ils aiment bien dire souvent qu'ils sont les Xème successeurs dans la dynastie de un tel.
Vous voulez dire qu'on peut être Louis XIV, mais qu'on a eu un Louis I à un moment donné.
Voilà, et ils aiment bien rappeler qui a fondé la dynastie. Alors les textes de Copan nous parlent de ce fondateur, le nom Yash Kukmo.
C'est un beau nom.
Oui.
Ça se traduit?
Oui, Yash veut dire premier, précieux, vert.
Donc vert comme la jadéite de tout à l'heure, c'est le bijou de base.
Kuk veut dire Quetzal, c'est le nom maya de l'oiseau Quetzal.
C'est un oiseau qui n'est pas très grand, avec une gorge rouge, mais tout est vert, avec de nouveau
des
grandes plumes.
Et qui est vraiment un oiseau, c'est l'oiseau fétiche. Il est encore sur les billets, je crois, au Guatemala.
C'est encore la monnaie du Guatemala.
Et puis, Mo veut dire Ara, donc c'est aussi un oiseau.
C'est le perroquet tout à l'heure.
Voilà. Donc, ce monsieur, ce fondateur, était le grand, resplendissant, ouvert. Ara Quetzal.
C'est un beau nom.
Oui, tout à fait.
Étant fondateur d'une dynastie comme cela, ça veut dire que le fait de l'avoir déposé sur une banquette qui est décorée avec des hiéroglyphes, avec les céramiques, avec ce squelette-là, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que ce squelette est le premier ou qu'il a été redéposé à cet endroit justement pour qu'il soit fondateur d'une dynastie? Je veux dire, est-ce qu'on a créé l'Escurial, vous me comprenez, pour mettre ses ancêtres? Est-ce qu'on sait ça? Je veux dire par là, est-ce que les Mayas s'intéressaient à leurs ancêtres comme nous l'avons fait dans nos grandes dynasties européennes et tout à coup tous les rois sont au même endroit ou il y a une sorte de logique dynastique?
Bon, évidemment, il est difficile de savoir si c'est en effet ce Yash Kukmo est arrivé un jour au site de Copan ou bien qu'il y était peut-être, mais qu'il a lui-même décidé qu'il lançait une nouvelle dynastie ou bien il a fait quelque chose qui en a fait un fondateur.
Bah voilà, on ne s'en rend pas forcément compte quand on commence.
Voilà, ou bien est-ce que ce sont les gens d'après, ses successeurs, les rois successifs qui, pour une raison ou une autre, peut-être parce que ce Yash Kukmo était très charismatique ou bien qu'on s'en souvenait pour ses exploits ou je ne sais pas quoi, que ses successeurs alors ont décidé de le choisir lui comme début de leur dynastie. Ça, c'est un peu difficile à dire parce que forcément, les textes qu'on a maintenant de lui où on parle de lui ont été faits après, mais il y a quand même un ou deux textes qui datent de cette époque. Donc on peut sans doute imaginer que lui-même savait qu'il jouait un rôle important. Mais
donc grosso modo, de 400, je disais 26, parce qu'on sait que c'est une date qui lui correspond, jusqu'en 810, 830 de notre ère, on a eu une dynastie comme en France, on aurait eu un Louis XVI pour finir.
Et... voilà, il y a eu 16 rois qui lui ont succédé, et le 16e d'ailleurs, qui a beaucoup écrit sur son ancêtre
règne.
Fondateur, il aime bien dire « celui-là, c'était mon ancêtre et moi je suis le 16e dans la succession de la dynastie ».
On lui a coupé le cou aussi, comme à Louis XVI.
Il avait sa tête en tout cas quand je l'ai vu.
Il y avait des sacrifices humains aussi chez les
bricoleurs. Oui, bien sûr.
Donc là c'est vraiment une grande découverte puisque maintenant on lit tout cela.
Oui. Bon, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne lit pas, mais là en l'occurrence le Yash Koukman on le connaît. Et puis c'était fantastique évidemment de découvrir aussi sa tombe.
On ira à Copan, je vous promets. Geneviève Lefort, je crois qu'on se rend compte un peu quand même que vous savez lire les glyphes mayas, ou en tout cas, vous avez cette humilité qui correspond bien à l'époque de Champollion. Je sais, mais je ne sais pas tout. Je veux dire, on sait beaucoup maintenant, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, un hiéroglyphe maya, c'était, on dit un glyphe plutôt, c'était vraiment encore un dessin superbe, une sorte de cartouche, on connaissait les dates, on avait à peine effleuré la chronologie, puisque je me suis amusé à donner des dates en même temps que vous tout à l'heure, mais en fait on ne savait pas qu'il y avait de l'histoire, on ne savait pas qu'il y avait justement un Louis XIV, un Louis XV et un Louis XVI et peut-être Versailles.
Non, en effet, bon d'abord à propos du « je sais, je ne sais pas tout », c'est vrai qu'on découvre de plus en plus, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent mystérieuses. Et puis bon, c'est évidemment ça qui rend la chose passionnante. C'est parce que quand on travaille là-dessus, on n'a pas l'impression que tout est fait et puis qu'il nous suffit d'apprendre ce qui a déjà été découvert. On peut jouer soi-même et puis essayer de découvrir des choses.
Je faisais le rapport avec Champollion. Il n'y a qu'une centaine d'années qu'on travaille sur les Mayas et on a cette impression-là. C'est-à-dire qu'en Égypte, on aura toujours quelque chose à découvrir, mais on a déjà une fin, on a déjà une décadence dans la recherche. Mm-hmm. Tandis que là, tout est encore en ébullition depuis 10 ans.
Oui, d'ailleurs, il y en a peut-être qui diront « Ah oui, mais pour le moment, la recherche en épigraphie, donc l'étude de l'écriture, c'est peut-être pas encore une science très mûre parce qu'on cherche, on tâtonne, mais on fait d'immenses découvertes, on se trompe aussi beaucoup, mais je crois que c'est important. Oui, c'est ça, parce que le fait, il faut pas avoir peur parfois de pouvoir se lancer dans des explications, des hypothèses, et puis de revenir en arrière, parce que c'est ça aussi qui fait que la recherche est intéressante, quand tout le monde lance un peu des idées. Bon, il faut pas non plus exagérer, hein, mais quand tout le monde lance un peu des idées, bah, ça donne des idées à d'autres, et puis ça met des gens sur la voie, et puis souvent d'ailleurs, les découvertes qui sont faites par différentes personnes indépendamment, comme quoi c'est vraiment comme un magma comme ça qui... Et puis de temps en temps, oups, il y a une petite découverte qui sort, mais chaque découverte est un grand pas en avant, et puis chaque fois on connaît un petit peu mieux la civilisation.
Là, vous êtes rentré voir votre joyau, Quetzal, oiseau. Il y a des personnages comme cela chez les Mayas que nous connaissons, et j'ai envie de revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'il y a des découvertes qui font un peu l'effet d'un catalyseur ou de quelque chose qui fait bombe dans la recherche ou dans l'envie de continuer. Mm-hmm. Si on refait le parallèle avec l'Égypte, 1923 je crois, je sais pas, au moment où tout à coup on ouvre cette tombe, votre même torche en torche pure, oui, juste pour apercevoir comme ça un Toutankhamon dans le fond, c'est quand même une bombe. On a eu ça chez les Mayas à Palenque, non?
Bien sûr, oui. Alors j'aurais tellement aimé pouvoir être là parce que ça devait être un moment fantastique.
Avec
Alberto Ross Lhuillier. Mais alors la date exacte, c'est 50, 52
1952, ça, oui.
Voilà. Mmh. Et cet archéologue mexicain qui, en travaillant sur ce magnifique site de Palenque...
Où sommes-nous?
Alors là, on est par contre tout à fait à l'ouest, on est à l'opposé
de Copan.
De Copan, hein. Copan est vraiment le site le plus à l'est du territoire maya. Palenque est le site le plus à l'ouest. Donc on est tout à fait de l'autre côté.
Donc là, on est dans la fin des Chiapas mexicains,
oui.
Pas très loin du golfe du Mexique, à une centaine de kilomètres de la mer du côté atlantique. Et là, dans une immense plaine qui est également très tropicale et juste appuyée contre les...
Mais alors justement,
les premiers contreforts de...
Et Palenque est presque le contraire de Copan, dans le sens que quand on arrive à Palenque, par contre, bon, maintenant c'est dégagé parce que le site est assez bien visité, à raison d'ailleurs, parce que c'est un des plus beaux. Mais là, par contre, derrière les pyramides, on sent vraiment la jungle.
La jungle.
Et alors, c'est d'ailleurs assez comique, parce qu'une fois qu'on... Oui, on quitte un petit peu une pyramide et puis on s'enfonce un petit peu derrière, tout de suite l'atmosphère change.
Vous avez entendu, on entend ces espèces de cigales, ce bruit de fond.
Tout de suite, il y a le bruit des oiseaux, des insectes, il y a tout qui change. Hein. C'est vrai que ça, c'est assez frappant.
Ça, c'est Palenque. Et devant, en premier plan, il y a cette chose incroyable qu'on appelle la pyramide des inscriptions qui a été découverte, enfin retravaillée en 1949. Et il a fallu 3 ans pour découvrir ce que je disais tout à l'heure, le Toutankhamon du moment.
Voilà. Alors, Alberto Ross, l'huilier, il a réussi à descendre, il a découvert un escalier qui partait du temple au sommet de la pyramide.
Donc on est tout au sommet de la pyramide, il trouve des bouchons de pierre, il enlève une dalle, qu'est-ce qui s'est passé après?
Alors il trouve le début d'un escalier, il se dit ça doit mener quelque part, mais évidemment il y a plein de terre, de débris qui sont là, qu'il faut d'abord dégager.
On avait rebouché l'escalier, c'est ça?
Et alors, il lui a fallu tout dégager. Je crois qu'il a pris 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était un fameux boulot.
49, 50, 51, 52, vous n'êtes pas loin, oui.
Et puis alors, finalement, après beaucoup de peine et dur travail, il est arrivé devant une chambre funéraire. Je crois même qu'il y avait d'abord une dalle en pierre qu'il a dû bouger.
Ah, il y avait même des sacrifiés qui étaient devant, une énorme dalle qu'il a dû... Je crois qu'il n'avait même pas... là, on s'amuse. Je ne crois pas qu'il n'avait ouvert... C'est une grande dalle en forme de triangle, en pierre très lourde.
Oui.
Et il avait fait un trou juste à côté pour faire ce que vous avez fait dans la tombe de Copan. C'est-à-dire qu'il a voulu voir à l'intérieur d'abord.
Ah oui, mais ça, je ne suis pas au courant.
Comme on l'a fait avec Toutankhamon. Non, ce n'est pas celui qui me l'a raconté.
Voilà.
Alors allons-y, on voit, qu'est-ce qu'on voit quand on passe la torche en question?
Alors là, c'est une chambre funéraire qui est beaucoup plus grande évidemment que la petite chambre de Yashkukmo à Copan. Et là par contre, on voit au milieu de cette chambre funéraire un grand sarcophage en pierre, entièrement sculpté, avec une image absolument magnifique au-dessus.
Et dans sur le dessus, sur la dalle
sur
du sarcophage.
Et ce sarcophage... abritait les restes du peut-être plus grand roi de l'ère maya, le plus connu en tout cas, mais sans doute aussi tellement connu parce qu'on a découvert sa tombe et que c'était tellement fantastique, il s'agit du roi Pakal.
Quand vous dites roi chez un maya, Geneviève Lefort, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Parce que c'est difficile, on dit souverain, on dit dynaste, on dit roi,
c'est vrai,
c'est pas vraiment ce qui convient à un maya.
C'est difficile... Oui, disons que les mayas en fait étaient organisés en petites cités-états, et à la tête de chacune de ces cités-états était un...
Donc vous voulez dire c'est une sorte de puzzle. On a plus de 300 000 km² et puis vous avez des petits trucs qui se développent avec des plus grosses comme Tikal, Calakmul, Palenque dont on vient de parler, qui n'est pas très grande, mais enfin qui est forte, Copan. Alors, ça se pose comme ça sur la carte.
Oui, il y a plein de petites cités-états. Bon, évidemment, elles sont fortes en contact les unes avec les autres. Il y a une unité très forte. Bon, elles partagent la même écriture,
bien sûr.
Mais elles sont chacune indépendantes, enfin pas toutes, il y en a qui sont subordonnées à d'autres, mais à la tête de chacune est un personnage, qu'on nomme roi à défaut de le nommer autrement. Mais...
Comment vous l'appelez, vous? Comment dans votre langage vous aimeriez l'appeler? Achao, ça vous irait?
Oui, par exemple. Achao, en effet.
Dites-moi ce que veut dire Achao.
Achao est le titre maya que l'on donne au roi. On peut peut-être le traduire par seigneur, comme seigneur d'une cité. Ça convient sans doute beaucoup mieux que roi. Et
parce que votre personnage de tout à l'heure, comme vous l'indiquiez, c'est vrai qu'il fait plutôt grand seigneur. Il y a cette espèce d'apparat, cette transformation.
En effet.
Est-ce que c'était des gens qui vraiment avaient des contacts? Parce que là, on vient de parler de culture. Alors, on a parlé d'écriture, mais dans un site, il n'y avait que quelques centaines de personnes qui savaient lire et écrire.
Bien sûr.
Le paysan du coin qui plantait son maïs, il obéissait à ces gens-là, et particulièrement à ce seigneur qui est unique. Alors, ce côté monolithique des cités mayas, ce côté monothéiste, dans le sens, non pas par rapport aux divinités, mais presque par rapport au personnage central, c'est-à-dire cette façon étrange de commander, c'est quelque chose qui était propre à cette époque classique quand même. Il n'y avait pas d'immenses armées, il n'y avait pas de commerçants.
Non, le roi est vraiment le personnage central et il est justement important et central parce que, comme je le disais tout à l'heure, il est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes parce qu'il porte, lui, lors de cérémonies, justement, il se fait le représentant du dieu.
Mais il ne s'arrête pas seulement au... Quand on voit le monde précolombien, on a l'impression... Moi, j'ai toujours l'impression que ces gens-là étaient des ascenseurs. Ils pouvaient monter dans le ciel ou descendre dans l'inframonde. Vous me suivez ?
Oui, tout à fait.
Or, même quand on plante une stèle comme tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a des racines et qu'en même temps, il y a quelque chose qui monte vers le ciel. Est-ce que c'est juste ?
Oui, évidemment, à partir du moment où le roi est l'intermédiaire entre les dieux et les hommes, il se fait, lui, le lien entre les différents niveaux de l'univers. Et parce qu'il contrôle justement ce lien et qu'il fait bien son boulot, enfin on l'espère, alors le cosmos reste en ordre, en fait, et tout fonctionne comme il faut.
Et le lien que vous venez de faire, j'ai envie de mettre le soleil ou quelque chose en haut, j'ai envie de le faire bouger dans l'atmosphère, j'ai envie d'imaginer la croûte terrestre, j'ai envie de descendre dessous, de mettre un petit grain de maïs, de faire pousser la végétation, de mettre un peu d'eau. Tout cela, c'est le travail d'un seigneur, finalement. Je veux dire, c'est lui qui met en valeur tout ce que le paysan doit faire en lui donnant un calendrier, vos hiéroglyphes, temps.
Oui, oui, c'est le roi qui est au centre de tout. C'est aussi le roi qui fait la guerre, qui doit défendre sa cité, qui éventuellement, si l'envie lui en prend, qui doit conquérir à gauche et à droite, mais surtout qui défend. Et c'est aussi bien sûr le roi qui est garant aussi de la fertilité.
On ira peut-être encore quelques instants dans la tombe de Pakal pour voir si ça tient par rapport à l'idée d'une mort ou d'un sarcophage. Geneviève Leforge me rappelle d'un jour assez impressionnant à Palenque. Il neigeait ce jour-là. Vous y croyez ?
Non.
Mais si. C'était le volcan Chinchon qui était rentré en éruption. Et puis, comme par hasard, il y avait cette espèce d'incroyable pluie de cendres blanches comme de la neige qui recouvrait entièrement le site de Palenque.
Ça devait être très beau.
C'était un autre site et il a fallu attendre la pluie, naturellement, pour que tout cela se lave. Mais ça avait permis de... Bon, je dirais presque d'acidifier certains reliefs et certaines parties du site. On avait l'impression qu'il avait été récuré. Vous voyez ce que...
oui.
Par contre, par rapport à votre jungle de tout à l'heure, ça a été peut-être l'image la plus folle que je connaisse de Palenque. Vous marchiez dans une ouate comme ça, dans une sorte de silence parfait, avec mais vraiment aucun bruit d'oiseau dont on parlait tout à l'heure. C'était une jungle complètement morte. Et là, c'est vrai que ça m'avait pris au trip en me disant comment est-ce que les Mayas ont disparu ? Pourquoi tout cela s'est-il arrêté ? Pourquoi un souverain, un Arhao, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, comme Pakal Bouclier, qui est là dans sa tombe depuis 683, ou je ne me rappelle plus l'année, a fait que sa dynastie n'a pas continué, n'a pas survécu, et que tout à coup, toutes ces cités dont vous parliez tout à l'heure s'arrête.
Bon, ça, évidemment, c'est la grande question qu'on nous pose toujours, le déclin de la civilisation maya. Bon, il y a différentes hypothèses, et puis je crois qu'il faut un peu toutes les combiner, et puis que c'est seulement...
Allez-y, combinez, peau de banane si vous voulez.
Non, une des hypothèses serait par exemple...
Qui vous touche ?
Qui me touche ? Mais je dirais qu'on voit de plus en plus ces rois, qui étaient donc très importants, et puis qui étaient de plus en plus entourés, on les voit sur les stèles ou bien sur les linteaux, donc dans l'iconographie, on les voit de plus en plus entourés d'autres personnages. On les représente avec un haut dignitaire, par exemple, en train de faire une cérémonie rituelle. Et apparemment, sans doute que ces personnages secondaires qui faisaient partie de la dynastie, qui étaient aussi royaux, des princes ou je ne sais quoi.
Des ministres, des premiers ministres. Enfin,
toute la cour du roi, ont Puisqu'on les voit de plus en plus dans l'iconographie, eh bien, c'est qu'ils devenaient de plus en plus importants. C'est que le roi, pour une raison ou une autre, peut-être politique ou je ne sais pas quoi, religieuse, oui, mais que le roi, tout d'un coup, alors que ce n'était pas le cas avant, devait donner de l'importance à ces personnages secondaires au point de se représenter en leur compagnie sur les monuments. Donc peut-être qu'il y a eu de plus en plus, bon d'abord plus les familles royales grandissent, plus il y a de hauts dignitaires, plus il y a de princes, et plus il y a sans doute des gens qui veulent le pouvoir.
Et puis en l'occurrence, plus ça coûte, je veux dire, on n'a pas fait la Révolution française pour autre chose. Hein. Dès que l'aristocratie devient trop grande, ça gêne aussi celui qui plante son maïs.
Voilà. Donc il y a en effet eu peut-être des revendications. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, on parle ici maintenant de religieux, de choses comme ça, mais les Mayas n'étaient quand même pas des sages. Ils faisaient beaucoup la guerre. Et il y a eu, à la fin de la période classique, quand on parle de la période classique, qui est vraiment l'âge d'or de la civilisation, c'est 200-900 après Jésus-Christ.
Donc, de 200 à 900 de notre ère.
Oui. Et à la fin de cette période classique, il y a de plus en plus de guerres. On en a des récits dans les inscriptions, d'ailleurs, qu'un site va attaquer un autre.
Donc, ça craque un peu partout.
Oui.
Il y a une théorie qui dit, justement, est-ce qu'en point de vue population, vous parliez de Copan tout à l'heure, j'ai été très troublé lors de ma dernière visite de Copan, puisqu'on parlait de visite, où on m'a dit, ben, comme dans les années 800, aujourd'hui, à Copan, il y a autant d'habitants qu'à l'époque. Je veux dire, est-ce que ces cités ne sont pas devenues trop grandes aussi en population? Est-ce qu'elles n'ont pas commencé à se manger les unes les autres parce qu'elles se frottaient les unes aux autres?
Sans doute. Et puis plus on est, plus on utilise aussi alors, les ressources naturelles. Et puis ça appauvrit le sol et on a besoin de bois pour les constructions.
Et puis on a coupé votre forêt comme tout à l'heure.
Voilà. Mm-hmm. Donc je crois que tout ça mis ensemble a fait que peut-être que les souverains ou les seigneurs mayas, enfin la royauté maya comme on l'appelle, a peut-être atteint un point critique et peut-être qu'ils n'ont pas réussi à passer le cap.
Alors, vous coupez la tête de tout le monde, vous faites une révolution? Comment ça se passe? Parce que les paysans sont toujours là, les Mayas n'ont pas disparu. Ce qui a disparu, c'est l'usage des centres cérémoniaux.
Voilà. Non, bien sûr, c'est vrai que les gens ne sont pas nécessairement morts. Simplement, ils ont abandonné les centres cérémoniels. Bon, pas tout à fait. Et puis les foyers, le foyer culturel, c'est un petit peu...
C'est un peu Versailles sans avoir de roi. Je veux dire, on laisserait un grand palais, une pyramide, un endroit sans l'usage qu'on en avait.
Oui, ou bien il y avait peut-être encore un usage, mais il n'y avait plus la tête. Si
c'est
vous
ça.
Voulez. Il y avait plus.
Une église sans cardinal et sans prêtre.
Voilà. Et puis, mais bon, c'est pas pour autant que les Mayas ont tout perdu, parce qu'en effet, les hommes, les individus, ben, sont restés là avec leurs croyances, et puis ils ont conservé évidemment un certain nombre de traditions.
Et puis il y a d'autres sites qui sont venus et qui ont changé et ça a évolué.
Oui, voilà.
Mais est-ce que vous pensez, c'est une autre théorie, est-ce que vous pourriez penser que des précolombiens seraient peut-être aussi, et les Mayas en l'occurrence, une civilisation qui accepterait sa propre mort, comme on faisait mourir un bâtiment, comme on faisait mourir une céramique, comme on faisait mourir le pacal de tout à l'heure pour l'enterrer? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer, comme maintenant, que dans, je ne sais plus, 400 jours, je ne les ai pas comptés, ce sera l'an 2000 et que tout pourrait s'arrêter, si on l'avait prévu depuis 2000 ans?
Bon, c'est vrai que les Mayas fonctionnent beaucoup par cycle. Donc, c'est vrai qu'ils ont des prévisions parfois que, quand on va arriver à la fin d'un cycle, il va se passer quelque chose. Bon, mais là, j'ai quand même du mal à croire.
Vous n'êtes pas troublé par le fait, ça, je suis sûr que ceux qui nous écoutent ne vont pas savoir ce que veut dire un Bactoun, mais ce n'est pas important. Quand on sait que tout à coup, ces gens-là, comme pour nous en l'an 2000, je dis que ce n'est pas important parce que 9 Bactoun, par exemple, c'était 830 de notre ère, la fin du 9e Bactoun, et on passait au 10e. Vous ne pensez pas que, par exemple, par un changement de chiffre sacré ou de date sacrée, ça puisse tout à coup... Je ne sais pas si ça fait 300 ans que vous dites, écoutez, en l'an 2000, il va se passer quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut agir sur un fonctionnement pour des gens aussi religieux que vous venez de nous les décrire?
Peut-être. En effet, il est en tout cas clair que chaque fin de période, comme on les nomme maintenant, qui est vraiment la fin d'un cycle...
On pourrait dire d'un soleil chez les précolombiens.
Oui, par exemple. Était, en effet... c'était la fin d'un monde, ça c'est clair. Mais bon, en l'occurrence, là, notre période classique ne se termine pas... à la fin d'une de ces créations. Enfin bon, en effet, les Mayas, comme les autres peuples de Mésoamérique, ont, dans leur mythologie, ont vécu un certain nombre de créations successives, mais la fin de la période classique ne correspond pas forcément à la fin de cette création.
Là, on est très scientifique sans vouloir, mais revenons peut-être à Pacal Bouclier. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui se fait enterrer, comme le faisaient les grands pharaons d'Égypte, je reprends toujours des exemples avec le classique parce que c'est plus clair dans notre cerveau, quelqu'un qui se fait enterrer dans une pyramide, comme à Palenque, est-ce que lui-même se pense à quelque part divinisé et croit avoir une tâche dans l'au-delà?
Oh, certainement.
Et quelle est la tâche de Pascal Bouclier pour vous ?
Alors maintenant, je ne sais pas si en effet il est devenu un dieu après sa mort, mais ce roi était tellement important. Il a sans doute été très fort charismatique, certainement, parce que quand on pense, j'imagine si nous, maintenant, quand on pense à Palenque, on pense à ce roi, sans doute que ses successeurs ont aussi dû penser la même chose. Donc, il y avait là ce temple qu'on appelle maintenant ce temple des inscriptions, qui est là au milieu du site et qui est vraiment élevé à la grandeur de Pacal, parce que c'est son tombeau, mais c'est aussi un peu son mémorial, son mausolée.
C'est même le centre du site, pratiquement,
oui.
À part le grand palais.
Oui, oui.
Mais ce qui est curieux quand même, c'est que vous ayez un sarcophage incroyable, on n'en a jamais retrouvé de plus beau que le sien, et puis en même temps vous avez autour tous ses ancêtres qui donnent des impressions végétales assez curieuses, parce qu'on a l'impression qu'ils poussent depuis l'intérieur de la terre, donc toujours cette idée de l'agriculture. Et puis moi, la chose qui m'a touché le plus quand je suis allé pour la première fois avec Rose Lullier, que vous évoquiez dans sa tombe, puisque lui-même est enterré en face maintenant puisqu'il est mort, eh bien c'était ce petit escalier qui suivait l'escalier. C'est-à-dire que depuis le fond du sarcophage, depuis le dessous du sarcophage, il y a une sorte de tuyau,
une sorte de conduit mental
qui longe l'escalier jusqu'au sommet dans le temple et qui vous met carrément en liaison mentale avec la personne enterrée. C'est quand même fort, c'est un peu comme si tout à coup vous vouliez faire une sorte de qu'est-ce que je vais dire, un conduit ombilical avec
tout
la personne
à fait.
Qui est là.
Il est clair que les gens qui allaient au-dessus de cette pyramide dans le temple certainement devaient se sentir en contact avec ce roi défunt, et sans doute qu'on avait envie, quand on faisait des rituels, qu'on lui demandait sans doute d'agir favorablement dans les affaires des vivants. Enfin, un roi mort continue à avoir énormément d'importance pour les vivants, ça c'est sûr.
Geneviève Lefort, quand on dit magie, ou qu'on dit magique, ou qu'on dit sorcellerie aujourd'hui chez les Indiens, ou comme on l'imaginerait chez ces Mayas, est-ce que vous pensez que cette dimension magique, qui est la plus forte sur le plan religieux, c'est quelque chose qui a recouvert toutes les Amériques? Est-ce que vous sentez cela au fur et à mesure de vos études, cette importance de la magie?
Oui, certainement, et on commence de plus en plus à se rendre compte à quel point le roi peut-être pouvait se transformer comme un chaman. Enfin bon, tout ça c'est encore pas...
C'est bien.
Mais bon, ça c'est...
Qu'est-ce que vous feriez cette nuit-là? Un petit jaguar?
Par exemple, évidemment, oui, ça c'est vraiment l'animal par excellence. En effet, le roi aimait se représenter sous les traits d'un jaguar.
Est-ce que vous pensez que comme avec une drogue, et il se droguait souvent, on pouvait imaginer ce genre de chamanisme, de fonctionnement? Parce qu'il y a peu de civilisations aussi fortement chamaniques que celle des précolombiens ou des Mayas.
Oui, en effet, à mon avis, j'ai d'ailleurs entendu des gens dire que les précolombiens fumaient énormément du tabac très très fort. Et apparemment, quand on fume, d'abord, on a la voix qui descend assez fort.
Oui, c'est vrai ça.
Et apparemment, moi je ne fume plus, mais je crois que j'ai gardé la voix assez basse. Mais apparemment aussi, l'odeur change. Et quelqu'un m'a dit un jour, mais c'était justement Linda Shill, cette éminente spécialiste américaine, m'a dit un jour que l'odeur de la sueur d'un fumeur, mais pas d'un fumeur comme on peut l'être ici à fumer nos gentilles cigarettes, mais ressemblait vraiment à l'odeur du jaguar.